Maintenant, on a appris hier, c'est un reportage de Radio-Canada, que l'hôpital de Saint-Jérôme avait enregistré un nombre effarant de décès chez des patients et de cas de contamination depuis le début de la crise. 277 patients ont développé la COVID-19 à l'hôpital et au moins 76 en sont décédés. Là, quand tu regardes un peu le détail, hôpital vétus, plusieurs patients par chambre, donc on a mis 2, 3, 4 personnes dans une chambre, déjà que l'endroit est vieux. Mais en même temps, ce matin, je veux regarder, parce qu'on regarde beaucoup là, la situation actuelle puis comment on va arriver à Noël, mais il y a toute la question du mois de janvier, avec la période des fêtes qui s'en vient. Puis à chaque année, on le sait, là, on a une crise dans les urgences parce que il y a des gens qui sont en congé, il y a plus de cas, il y a des suroccupations de l'urgence. C'est comme si on n'apprend pas d'une année à l'autre, puis que c'est toujours un peu le même scénario qui revient. J'en ai parlé à quelques reprises avec Dr Simon-Pierre Landry, qui est médecin d'urgence à l'hôpital de Sainte-Agathe. Dr Landry, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
On va parler de votre région, là, la grande région des Laurentides. La première chose, puis on le voit là, depuis plusieurs années, il y a un boom de population. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent dans les Laurentides. Est-ce que l'offre de services de santé en général suit l'augmentation de la population?
Absolument pas. Comme vous l'avez dit, la région est en forte croissance démographique. On est rendu 600 000 de population. Donc, les gens s'installent dans notre belle région, un peu comme ils le font en Montérégie aussi, puis dans l'Outaouais. C'est des régions qui sont assez similaires en termes de démographie qui augmentent. Puis, on a aussi tout un phénomène des tours de résidence pour personnes âgées hein, qui se construisent parce que, bon, je prends mes grands-parents qui habitent en Abitibi puis qui veulent se rapprocher pendant qu'ils vieillissent de leurs enfants, donc qui ont déménagé ici dans la région de la banlieue de Montréal. Donc, tous ces phénomènes-là, finalement, font qu'il y a une énorme croissance démographique. Mais on a comme l'impression, finalement, que les gouvernements et les administrations publiques sont toujours en retard sur la réalité. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on voit une augmentation démographique, mais je vous dirais, l'augmentation en infrastructure puis en services dans les Laurentides, ça, c'est épouvantable là, comment ça n'a pas suivi, finalement, l'augmentation de la demande. Et ce que ça fait, finalement, bien, dans un régime public où est-ce que les investissements sont décidés par les gouvernements, ça veut dire que les listes d'attente augmentent. Donc, on parlait justement des urgences. Hein. On en a parlé justement l'année passée, juste avant la COVID. On disait ouais. À chaque année que les urgences allaient déborder puis que c'était quelque chose qui était prévisible. Bien, si on n'arrive pas à donner, finalement, une offre de service qui est logique en fonction de la population, bien, ça fait en sorte que ta liste d'attente ou ton urgence, l'attente dans l'urgence, finalement, augmente continuellement à cause que l'offre ne répond pas à la demande.
Mais je sais que vous ne pratiquez pas là, à l'hôpital de Saint-Jérôme, mais je prends juste cette figure-là de dire on a un hôpital vétuste, il y a une pression qui est forte parce que la population augmente. On est obligé de mettre 1, 2, 3 patients par chambre, 4 parfois, dans un hôpital vétuste. C'est courir après le trouble, ça?
C'est vraiment courir après le trouble. Puis nous, on est tous interconnectés. Je veux dire, je ne travaille pas spécifiquement à l'hôpital de Saint-Jérôme, mais si vous vous cassez un fémur à Mont-Tremblant, juste à côté de mon urgence, il va falloir vous transférer à Saint-Jérôme. Donc, Saint-Jérôme, pour nous, c'est notre hôpital spécialisé. Ça veut dire que toutes les chirurgies qui nécessitent des spécialistes, bien, sont transférées vers cet hôpital-là. Et quand ça déborde, finalement, vous en parlez souvent à votre émission, puis avec raison, vous parlez des listes d'attente des gens, de délestage. Ouais. Donc, les gens qui étaient supposés d'être opérés pour leurs genoux, leurs hanches, puis à cause, justement, de la COVID, à cause des éclosions, bien, il y a des chirurgies qui sont annulées. Et ça, c'est des patients de chez nous aussi que leurs chirurgies sont annulées. Donc, l'effet à rebours, finalement, c'est toujours une augmentation des listes d'attente. Et ça, c'est très frustrant pour nous, parce que nous autres, on le sait, là, comme médecins, que si vous habitiez à côté du CHUM, vous seriez opéré beaucoup plus rapidement. Si vous habitiez à côté du CHUM, vous ne seriez pas entassé dans des corridors à l'urgence de Saint-Jérôme avec un risque beaucoup plus augmenté d'attraper la COVID que si vous étiez dans un espace avec plus d'espace entre les patients, finalement, dans d'autres hôpitaux. Et c'est cette iniquité-là, finalement, entre les régions qui est frustrante. Puis je pense, finalement, qu'il faut qu'on arrive à comprendre comment les fonctionnaires, finalement, à partir de quelle formule mathématique ils décident où est-ce qu'ils vont mettre les sous. C'est sûr que, historiquement, dans les dernières années, les Québécois, ils ont fait des choix collectifs. On a décidé de mettre beaucoup d'argent dans des hôpitaux spécialisés. On a construit un CHUM, on a construit un CUSUM, on s'apprête à construire un CHUL à Québec. Ça, c'est des hôpitaux très spécialisés. Ça coûte très, très cher construire ça. Mais c'est comme si, pendant ce temps-là, on a oublié de donner les services de base. Tu sais, les services dans les hôpitaux qu'on appelle communautaires, c'est-à-dire pour traiter votre appendicite, pour traiter les choses banal à l'urgence. Donc, c'est cette iniquité-là qui vient attiser finalement le sentiment de frustration de la région.
Est-ce que vous avez l'impression que cette année, c'est sûr que le facteur COVID, pandémie, là, c'est hors norme, là, mais est-ce que les plans d'urgence sont mieux faits que par le passé? Est-ce qu'on a, je dirais, parce qu'on en a, vous et moi, parlé quand même quelques reprises en disant ils attendent que ça pète, puis après ça, ils réagissent. Là, est-ce qu'ils ont pris de l'avance cette année?
En avril dernier, moi, j'étais agréablement surpris. Bon, il y a eu des effets collatéraux, évidemment. Il y a eu beaucoup de délestage. Mais ce qu'on a vu en avril, finalement, c'était que les hôpitaux étaient capables de s'organiser pour appuyer les urgences. Parce que le problème, c'est toujours la même affaire. C'est-à-dire que on dit c'est le problème des urgences, mais c'est pas le problème des urgences. C'est le problème de l'ensemble des hôpitaux puis des cliniques médicales autour des urgences qui doivent venir appuyer l'urgence pour que ça déborde pas à l'urgence. Parce que nous, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à Noël, au jour de l'an, mais les autres autour, ils n'étaient pas toujours ouverts ou en train de donner, t'sais, d'appuyer l'urgence. Et quand avril a frappé avec la COVID, immédiatement, il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a eu des délestages qui avaient été faits. Il y a des protocoles qui ont été mis en place. Il y a des listes de garde de médecins qui surveillaient les résidences pour personnes âgées. Donc ça, c'était toutes des belles affaires, des belles avancées. Puis j'étais là, wow! Hey, c'est exactement les mesures que ça faisait des années qu'on disait qu'il fallait qu'on fasse. Puis on l'a fait au printemps. Maintenant, l'enjeu, c'est que ça s'étire. Okay? Si tu fais ça juste pendant la période de janvier-février, une période prévisible où est-ce que l'influenza normalement frappe, c'est gérable. Là, le problème, c'est qu'on est dans une situation où est-ce que, vous l'avez dit en parlant des vaccins tantôt, on s'enligne vers 2021-2022 avec encore des impacts. Et là, il faut qu'on trouve le moyen finalement de donner des services sans toujours finalement arrêter tout le reste autour. Donc, est-ce qu'on est prêt à...
Dans le fond, ce que vous dites, il faut traiter les patients non-COVID.
Bien, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de les traiter. Il y a des solutions qui ont été amenées, c'est-à-dire les centres chirurgicaux spécialisés. Hein, ça veut dire que c'est des à gestion privée, mais les gens ne payent pas quand ils se font opérer là-bas. Ça, c'est un moyen, finalement, d'opérer plus de gens. Il y a aussi d'autres solutions, comme opérer dans des plus petits hôpitaux où est-ce que le bloc opératoire est moins achalandé. On peut penser à La Chute, Mont-Laurier, où est-ce que des patients de Saint-Jérôme pourraient être opérés. Tu sais, je lance des idées comme ça en l'air. Est-ce que ce plan-là, est-il bien avancé? J'ai quand même mes doutes. Moi, je suis craintif. Je suis un peu pessimiste à l'avance, mais à l'urgence, on dit toujours espérer pour le mieux, mais plan for the worst en anglais, tu sais, de planifier pour le pire. Et donc, c'est sûr que janvier, février, si je me fie aux autres années, même si on prend des mesures de santé publique pour diminuer la virémie de tous les virus, incluant l'influenza, il en demeure pas moins que c'est une période de l'année qui est extrêmement achalandée. Et ça va rajouter du délestage dans le système. Donc, les listes d'attente vont augmenter. Et est-ce qu'on est prêt, finalement, collectivement, à trouver des façons d'opérer ces patients-là? J'ai pas encore vu de plan hyper cohérent pour qu'on soit capable de dire à la population, les listes d'attente vont diminuer, puis vous allez être traité aussi rapidement que normalement, alors que déjà, on a des listes d'attente en temps normal, même sans la COVID.
Merci beaucoup, Dr. Landry. Bonne journée.
Merci.
Bye-bye. Au revoir, Dr. Simon-Pierre Landry, qui est médecin donc, d'urgence à l'hôpital de Sainte-Agathe.